Qui nous veut du bien ? Aujourd'hui, à l'heure de la grande grisaille, du pessimisme permanent, de la constante compétition, arrêtons l'omerta et demandons-nous enfin pourquoi on finit toujours par choisir le soir, en rentrant du travail, la bonne comédie romantique, le jeu ou le programme résolument bienveillant ou le livre dont on sait très bien qu'il se terminera très bien. Bah ouais, même si c'est facile ou gnangnan, même si vous voyez venir le bien-pensant ou le bon sentiment, arrêtez de faire semblant. Entre le drame politique et la comédie romantique, bah je sais très bien ce que vous choisissez parce que moi, je suis pareil. Le réconfortant, ce qui vous veut du bien, ce qui fait que vous vous sentez mieux, ou même ce qui vous rend heureux. En anglais, on appelle ça le feel good. Ça vaut pour un film, une série, un roman. Au Québec, figurez-vous qu'il parle de cinéma velours, de livres ou de films pur bonheur, qui s'appelle Little Miss Sunshine, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, ou encore l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Ils ont cette étrange vertu de parler de vous tout en vous emmenant ailleurs, et d'agir surtout comme autant d'antidépresseurs. On les conseille discrètement à ses collègues, on les partage avec sa famille, on se les passe en douce entre amis et pour cause. Qui vous veut du bien aujourd'hui ?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est Elle Feelgood. Elle est romancière et depuis la publication en auto-édition des gens heureux lisent des livres et boivent du café sur la plateforme Kindle d'Amazon il y a 5 ans, ses livres se sont vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. À la lumière du petit matin vient de paraître chez Michel Lafon. C'est l'histoire d'une femme qui se reconstruit après avoir vécu dans le mensonge. Bonjour Agnès Martin-Dugan.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Se peut-il qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on ait besoin de se sentir bien ?
Je dirais qu'aujourd'hui, on assume plus qu'on a envie de se sentir bien et qu'on a envie d'avoir du bien autour de soi.
Parce que c'était le grand déni auparavant, c'est ça ?
Ben, ou alors, c'était mal perçu quand on réclamait peut-être d'avoir du bien et de se faire du bien et de passer de bons moments.
Et c'est vrai qu'en littérature, il se passe quelque chose quand même pour que vos livres, ainsi que ceux de Raphaël Giordano, Aurélie Valogne, Agnès Le Digue, mais également ceux de Catherine Pancol ou d'Anna Gavalda, auxquels on pense aussi, soient de tels succès aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai que après je pense que les lecteurs aussi demandent ça, en plus d'autres littératures. Et en fait, je pense que ce qu'ils cherchent aussi dans tous ces livres-là, c'est l'identification entre eux et les personnages. Finalement, moi, c'est ce que les lecteurs me disent beaucoup quand on se rencontre, c'est même si je raconte pas leur histoire, mais finalement, à tel ou tel endroit, que ça soit avec le personnage principal ou les secondaires, ils ont eu l'impression à un moment que c'était eux. Et de finalement raconter un quotidien qui jusque-là, on avait tendance à dire, ouais, le quotidien des gens, entre guillemets, normaux, c'est pas intéressant. Ben si, justement, c'est intéressant.
Mais vous allez plus loin, Agnès Martin-Dugan, parce que vous dites, je vous ai déjà entendu dire, que tous les livres, en fait, servent à faire du bien.
Oui, je pars du principe, finalement, cette catégorie feel good, moi je dis c'est pas entièrement vrai, parce que je pars du principe que l'acte de lecture, le fait d'avoir la démarche de se dire on va ouvrir un livre, quel qu'il soit, un thriller, un essai, un doc, n'importe quel type de livre, si on le fait, si c'est spontané, personne nous force.
C'est vrai que c'est une
donc
des
ça
fonctions
fait du bien
de la littérature, effectivement.
Mais oui, c'est ou d'apprendre quelque chose, ou de se créer des frissons si on lit du thriller, d'avoir des papillons dans le ventre si on lit une romance. Enfin, et finalement, à chaque fois, c'est pour avoir un bénéfice secondaire.
Et cette émotion, ce bénéfice secondaire, vous l'avez vous aussi quand vous écrivez ?
Mais en permanence. Si je n'ai pas de plaisir dans l'écriture, déjà le jour où j'en ai plus, il faut surtout que je m'arrête. mais voilà, j'ai besoin de ressentir des choses, j'ai besoin de ressentir les émotions de mon personnage principal.
Et de vous consoler aussi. Parce qu'il s'agit un peu de ça dans ces livres, toujours de se consoler, non ?
De se consoler et puis de se découvrir des capacités insoupçonnées. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi avec mes personnages. J'aime bien les faire traverser des épreuves, voire des drames pour certaines, et puis finalement, au fur et à mesure, les amener vers la guérison ou une sorte de cicatrisation pour qu'elles voient qu'elles peuvent aller plus loin, peuvent aller mieux, qu'elles peuvent vivre autre chose aussi.
Ça nous emmène forcément à l'origine de l'écriture. Oui. À quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait que vous écriviez, que c'était nécessaire, que vous en aviez besoin ? Est-ce que c'était une consolation ? Est-ce que c'était un empowerment, comme vous êtes en train de le décrire, pour parler en bon globiche ?
Oui. Alors, ma découverte de l'écriture remonte à la fin de mes études de psycho, quand il a fallu rédiger le mémoire de maîtrise et de DESS.
Vous êtes trouvé une âme de romancière.
Et en fait, alors j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce mémoire, et à la fin de la soutenance, mon prof me dit « Agnès, vous êtes faite pour écrire ». Là, je l'ai regardé certainement un peu bêtement, mais disant, qu'est-ce qu'il me raconte ?
C'est-à-dire que la phrase est singulière, quand même.
Et puis, en même temps, c'est resté. Quelque part, c'est resté. Et puis, je me suis dit, si un jour j'écris, ça sera pas pour écrire psy ou être dans la recherche psy, mais je raconterai des histoires.
Mais vous auriez pu garder ça pour vous. Il y a un autre moment où on se met à vouloir publier, à vouloir être lu.
Alors, après, moi, le deuxième moment important, c'est quand je suis devenue maman. Ça m'a donné, je sais pas, une force, un élan, un côté tête brûlée, et le désir d'écriture est revenu. Et après, c'est l'arrivée de l'histoire des gens heureux, les éboeufs du café.
Alors, il faut nous la raconter, cette histoire, parce qu'elle est quand même extraordinaire.
Oui.
Elle n'arrive jamais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez commencé par envoyer ce manuscrit à des maisons d'édition.
Oui, à quatre éditeurs. Deux m'ont répondu personnellement. Ils accordaient des qualités au roman, sans souhait de le publier. Donc je le retravaille, et une fois que j'ai estimé en tout cas que c'était terminé, là j'ai eu envie que le roman il existe. Pas nécessairement dans une démarche de publication, d'éditeur, j'avais un peu dépassé ça. En fait, je voulais finalement assumer ce que j'avais fait depuis 2 ans.
Oui.
Je m'y consacrais depuis 2 ans, et je voulais qu'il existe. Donc je me suis, j'ai utilisé ce biais de l'auto-édition numérique qui commençait à se développer. Et je me suis dit, au moins, je vais aller au bout. Et puis, je verrai bien ce qui va se passer. Ou les lecteurs vont rencontrer le roman, ou ils ne le rencontreront pas. Et dans ces cas-là, ça aura été une aventure personnelle extraordinaire pendant 2 ans. Et puis, je passerai, entre guillemets, à autre chose, où j'écrirai pour moi, dans mon petit coin.
Et là, ça a dépassé toutes vos attentes.
Ah, mais quand je l'ai mis en ligne le 27 décembre, j'ai demandé à mes amis, ma famille, si vous voulez bien être gentils et l'acheter dans un temps assez concentré pour essayer de rentrer dans le top 100. Et puis, ils ont été au rendez-vous et ça, le roman a grimpé. C'était plus que ma famille et mes amis, c'était des lecteurs anonymes. Et j'étais première des ventes au bout de 3 semaines.
Et là, alors, c'est assez passionnant, parce que c'est l'un des paradoxes pour moi de l'auto-édition. Vos livres sont aujourd'hui publiés chez un éditeur.
Oui.
Et vous n'avez pas tout de suite dit oui à Michel Lafon, il me semble. Vous avez hésité.
J'ai hésité, puis enfin, en même temps, très rapidement, je me suis dit, tu vas pas faire un caprice de diva non plus.
Caprice de diva, ou alors combat, parce que vous auriez pu, en tant qu'artiste auto-édité, en faire une volonté. Parfois, c'est le cas.
Oui, parfois, c'est le cas. Moi, j'étais pas forcément dans cette démarche-là. J'avais en tête aussi le bien fondé d'un travail avec un éditeur. Est-ce qu'un éditeur pouvait m'apporter ?
Alors, qu'est-ce qui vous apporte précisément ?
Alors, il y a le travail du texte, évidemment. Et puis, il y a la merveilleuse vie de mes romans à l'étranger.
Oui.
Enfin, je veux dire, toute seule, je ne serais pas publiée dans 32 langues.
Sur Internet, enfin, ah oui, c'est ça, la traduction.
Enfin, voilà, enfin, c'est... Et puis, c'est d'avoir une équipe derrière moi qui me soutient, qui est là aussi dans les moments de doute, qui me permet de prendre du recul par rapport à mon texte, où mon éditrice, je lui dis, pousse-moi dans mes retranchements, quoi. Enfin, le but, c'est d'aller plus loin à chaque fois.
En fait, ça a été un catalyseur d'édition, l'auto-édition.
Oui, pour moi, c'est un tremplin merveilleux. Au bout du compte, moi j'y étais à peine 2 mois en auto-édition.
Oui.
Tout a été très vite, tout s'est enchaîné très vite.
Parce que finalement, Agnès Martin-Dugan, ça fait que 5 ans.
Oui.
Alors celle qui n'a pas 5 ans dans cette émission, mais qui est immémoriale, sans doute la connaissez-vous, c'est la culture. Et son actualité qui parfois peut être bravache, brutale et même bête. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 7 juin ? Mobilisé pour Adama Diané, l'organisation Pen Club français appelle une nouvelle fois à se mobiliser contre l'expulsion du journaliste et écrivain guinéen Adama Diané. Le 23 mai, ce dernier s'est vu notifié de l'obligation de quitter le territoire français avant le 19 juin. Réfugié à Limoges, Adama Diané a quitté la Guinée, sa femme et ses enfants en 2015, menacés par le régime en place. Lors de son périple vers la France, il a été enlevé au Niger, emprisonné en Libye et naufragé en Méditerranée. Du frais aux Français, au terme d'une grève qui aura duré 2 semaines à la Comédie Française. Éric Ruff a révélé mardi la programmation pour la saison prochaine. Résultat des stars, des femmes et des jeunes. C'est le maître allemand Thomas Ostermeier qui fera l'ouverture avec La Nuit des Rois de Shakespeare. Côté audace, on pourra notamment compter sur la jeune Julie Deliquet pour mettre en scène Fanny et Alexandre d'Igmar Perman, ou sur la formidable Marie Raymond avec un projet inspiré de Fellini. C'est un grand oui.
When the revolution comes, some of us will probably catch it on TV with chicken hanging from our mouths. You'll know it's been...
Mort d'un poète, Jalal Mansour Nouridine, membre du groupe The Last Poets. Il est donc mort lundi, il avait 74 ans, pionnier du rap et artiste engagé. Le natif de Brooklyn avait ouvert la voie à toute la contre-culture hip-hop, notamment grâce à l'album The Last Poets, sorti au tournant des années 70, surnommé le Charlie Parker de la rime. Il restera comme le modèle des Beastie Boys, de N.W.A. ou du Wu-Tang, Rest in Power.
Je l'ai consulté, mes archives. Tu veux le voir, mon bottin mondain, je conserve tout.
Charlie Hebdo aussi garde tout, conserve tout, les poèmes, les dessins, les mots d'amour et les lettres de soutien. L'hebdomadaire satirique a déposé 35 cartons aux archives de Paris, soit près de 60 000 documents reçus à la rédaction après les attentats du 7 janvier 2015. Une fois collectés et classés, les trésors du fonds Charlie sont accessibles au public et même pour certains, visibles sur le net. Impec. Et Agnès Martin-Dugan, invitée de Boomerang ce matin pour son roman « À la lumière du petit matin », l'histoire, je le disais en ouverture de cette émission, d'une femme qui approche la quarantaine, professeure de danse, amoureuse d'un homme marié et dont le quotidien bascule à partir du jour où elle a un accident. Pourquoi fallait-il qu'elle soit prof de danse ?
Elle m'est apparue comme ça, finalement. Quand j'ai commencé à penser à mon futur roman, donc il y a une très grosse année maintenant, très vite j'ai vu une professeure de danse et une professeure de danse qui se blesse. Parce que j'avais envie de travailler le rapport au corps.
Et c'est ça.
Véritablement, et le corps comme unique moyen d'expression. Parce que finalement, Hortense, c'est son support depuis ses 4 ans. C'est son support pour être heureuse, c'est son support pour être triste, c'est son support pour exprimer sa colère, son chagrin. Et j'avais vraiment envie de la déposséder de ça à un moment, pour qu'elle aille un peu fouiller à l'intérieur, finalement.
Et qu'elle se révéler.
Oui. C'est qu'elle arrive à faire la synthèse entre ce corps qu'elle exploite tant qu'elle peut et la femme intérieure.
Mon corps était mon meilleur allié, celui en qui j'avais toute confiance, il ne m'avait jamais fait défaut. Je l'entretenais, j'en prenais soin, il était mon outil de travail. Depuis toute petite, il me servait à être heureuse. Il était mon arme de défense contre la tristesse, me permettant d'exister, de m'exprimer. Qu'il me lâche était de l'ordre de l'inconcevable. Ce que vous nous dites en fait, c'est que dans le cas de votre personnage, le corps et la danse sont des béquilles aussi.
Oui.
Et je me pose la question, Agnès Martin-Dugan, avant de trouver l'écriture, quelle béquille est-ce que vous utilisiez, vous, pour mieux vivre ? Pour être mieux ?
J'étais pas trop mal. Je vais dire ça comme ça. Non, j'allais très bien. Je crois que c'est... voilà, à un moment, mon souhait professionnel, entre guillemets, a pris une autre tournure. Et puis, j'ai eu envie d'explorer autre chose que mon métier de psychologue clinicienne. C'est un métier que j'ai adoré, que j'ai fait vraiment avec mon cœur. Mais j'avais envie d'autre chose. Et finalement, c'est vrai que la découverte de la maternité a été un moyen finalement pour moi de mettre face aussi à ce désir d'écriture que j'avais certainement enfermé depuis quelques années.
Aujourd'hui, vous ne faites plus que ça ?
Oui.
Écrire ?
Oui, je me consacre entièrement à l'écriture.
Vous écoutez de la musique aussi ?
Oui.
Bah oui, beaucoup. Parce qu'il paraît que chacun des livres que vous écrivez a sa playlist. Est-ce
oui.
que c'est vrai ce mensonge ?
C'est vrai, c'est totalement vrai. Chaque scène a son morceau et chaque roman a sa playlist. Je ne peux pas écrire... sans musique.
Alors attendez, parce que ça c'est intéressant, on va faire un petit jeu. Vous allez lancer des sons, comme ça, en lançant le bras, en disant fiou fiou, comme un boomerang. Il y a un son qui va arriver, quand le rouge s'allume, vous me dites du coup ce qui vous évoque. Vous êtes prête ?
On va essayer.
Alors, on y va.
Oui, ça c'est Hortense et sa meilleure amie Cathy qui se défoulaient en dansant dans la salle de danse de la Bastille.
Sur Whitney Houston.
Sur Whitney Houston pendant leurs années collège.
1985, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette voix, cette musique ?
Mais elle raconte la joie, elle raconte la danse, elle raconte la fête, elle raconte la liberté, elle raconte l'amour aussi.
Et comment vous faites pour écrire en même temps qu'on l'écoute ? On a envie de danser, Agnès.
Mais ça fait partie. Enfin, c'est. J'ai l'impression, en fait, oui, c'est dans ma tête, c'est dans mes mains. Mon rythme de l'écriture peut. Je peux taper plus vite. C'est-à-dire que si, quand je, par exemple, j'écris une scène de tension ou de colère entre ou de dispute entre deux personnages, si je suis sur une musique, un morceau plus, on va dire plus punchy, plus rock. Ça m'est arrivé. Enfin, je pense que je tape plus fort sur le clavier.
C'est une forme de danse, quelque part.
Oui, et c'est vrai que l'ambiance musicale participe à l'ambiance de...
Alors vous la mettez en boucle, la chanson?
Ah oui, tant que la scène n'est pas finie, je l'écoute en boucle.
Bah, chanson suivante, Agnès. Why do we crucify ourselves every day? Tori Amos, Crucify 1992, vous et moi avions 13 ans et Dieu sait si on s'en souvient.
Ouais.
Pour le coup. Pourquoi cette chanson, elle raconte quoi? Quelle scène?
Elle raconte le moment où Hortense prend une grande décision, prend la décision d'aller se mettre au vert et de passer sa convalescence dans la maison familiale. Parce qu'elle reçoit une photo d'un lilas en fleurs.
Et pourquoi fallait-il que ce soit Crucify?
Je sais pas. Alors je cherche hein, dans mes bibliothèques, dans les playlists, les découvertes de la semaine, de toutes les plateformes. Et puis de temps en temps, voilà, il y a des retours du passé qui arrivent. Et puis c'est hyper subjectif. C'est vraiment ce que la mélodie, l'ambiance du morceau génère chez moi, où je me dis, clac, c'est celle-là.
Ce qui est intéressant, c'est que vous faites une liste qu'on peut trouver, que les auditeurs oui. de Boomerang peuvent trouver oui. sur France Inde, sur Spotify,
oui.
Où on peut lire en fait le livre avec ces chansons.
Oui, oui, parce que je prends bien garde à les mettre dans l'ordre du roman. Et ça, c'est depuis le début. Et si j'ai un blocage parfois dans l'écriture, c'est souvent parce que je n'ai pas le bon morceau.
Chanson suivante. Alicia Keys, Girl on Fire 2012. Au fond, Agnès Martin-Dugan, je me demande si votre rêve, c'était pas plutôt de vous autoproduire sur MySpace plutôt que de vous auto-éditer.
Non, parce que de toute façon, ça serait une catastrophe que je fasse de la musique ou que je chante. Donc non, l'écriture avec la musique pour compagne, c'est ce qui me convient.
Girl on Fire, là, on est dans la découverte de soi,
ouais.
Le progrès, ouais. l'émancipation ouais. dans ce qu'elle a de plus fort.
Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est une scène importante à la fin.
Qu'on ne va pas du tout révéler.
Mais non.
Mais j'espère qu'on aura donné envie quand même aux auditeurs de France Inter de se plonger dans ce roman à travers ces trois musiques. Et là, vous m'avez tendu une perche, Agnès. Alors, on va reparler de choses qui donnent le moral, si vous le voulez bien, juste ouais. après quand même. If I ain't got you, parce qu'elle est présente ouais. dans votre playlist, parce que vous me tendez des perches, je l'ai dit. Alicia Keys, sur l'album culte The Diary of Alicia Keys, c'était il y a 15 ans. Vous êtes sur France Inter avec Agnès Martin-Lugan, on est jeudi. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on écoute Boomerang, évidemment. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore, so of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Some people search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. And if I ain't gotta do, baby, some people want
you with me, baby. Oh, ooh, said nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est la bonne copine, hein, celle qui vous laissait copier pendant le devoir de physique-chimie, celle qui, à 14 ans, vous dépannait toujours d'un clope ou d'une image Panini, celle qui a toujours la bonne idée d'appeler un taxi quand vous êtes tous les deux un petit peu trop éméchés pour conduire, celle qui vous sauve la mise à tous les coups, carré châtain clair, regard bleu tonique, sourire Colgate, tout en bleu marine et oiseau doré. Ce matin, Agnès Martin-Dugan, invitée de Boomerang pour À la lumière du petit matin, ce roman qui est déjà un succès, on le disait, l'histoire d'une prof de danse qui, au tournant de la quarantaine, se rend compte qu'elle vit dans le déni depuis la mort de ses parents. Elle est notamment follement amoureuse d'un homme marié auquel elle est assez soumise, il faut le dire. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on vous en parle de la place des femmes dans vos romans, vous dites que c'est pas vraiment une question que vous vous posez. Même aujourd'hui, depuis l'affaire Weinstein, depuis tout ce qui a suivi, du fait qu'on en parle de plus en plus aussi, que ça imprègne le paysage culturel, politique.
Alors c'est une bonne chose, finalement, parce que le fait d'en parler, bah, ça accorde, au fur et à mesure, ça va accorder la véritable place aux femmes.
Mais vous, vous y pensez plus ?
Non. Enfin, c'est vrai qu'instinctivement, j'ai écrit mon premier roman dans la peau d'une femme. Mais en même temps, finalement, parfois, avec le recul, beaucoup de questions que se posent mes héroïnes, ça pourrait être des héros qui se les posent aussi. Il y a des questions existentielles chez les hommes ou chez les femmes.
Certes.
Les hommes comme les femmes courent après l'amour. On a tous nos problèmes par rapport au travail. On est égaux hommes-femmes par rapport au chagrin.
Certes, mais il faut quand même noter que ce prisme que vous choisissez, c'est souvent le prisme féminin.
Oui. Alors c'est vrai que l'année dernière, dans mon précédent roman, c'était un double point de vue. Donc pour la première fois, je m'étais glissée dans la peau d'un homme, parce que le personnage masculin faisait trop de bruit, finalement, dans ma tête, et qu'il avait des choses à dire. Et puis, bon, après, je me suis rendu compte que je voulais raconter l'histoire d'un couple, donc il pouvait pas y avoir que le point de vue de la femme. L'homme avait son droit à la parole aussi, finalement. Mais... Après, je sais qu'aussi dans l'écriture, j'aime particulièrement observer les hommes avec mon regard de femme.
Ce qui est marrant, Agnès Martin-Dugan, je l'ai repéré, c'est que c'est Harvey Weinstein qui a décidé d'acheter les droits de votre premier roman.
Oui.
Vous l'avez rencontré du coup ?
Non.
Non ?
Non, non.
Et où ça en est ?
Bah, du coup, la décision a été très vite prise. On a rompu le contrat. Voilà, et donc
carrément.
Oui, c'est terminé. Donc on repart sur d'autres recherches de projets.
C'était votre volonté ?
Bah oui, enfin bon, il y a un moment, faut pas non plus exagérer, quoi.
Un personnage de ce genre, il aurait de la place dans un de vos livres ?
Non.
Eh oui, parce que le prisme qui est choisi dans vos romans, c'est aussi le prisme de la bienveillance, mine de rien.
Oui. Oui, c'est vrai que autant comme j'aime faire traverser des épreuves à mes personnages, autant je garde foi en l'être humain.
Et on a envie, enfin vous avez envie de passer du temps avec lui, avec ce personnage.
Ah oui, c'est indispensable. Si, enfin puis ça commence toujours par la question avec qui je veux passer du temps dans ma tête pendant un an.
Ouais.
Et à quel type de personnage secondaire j'ai envie de me confronter. C'est vraiment ça finalement. Je suis en fusion avec, je les traîne partout avec moi.
Et vous parliez de voix tout à l'heure, et moi je pense tout de suite à l'écoute. Je me pose la question, Agnès Martin-Dugan, si en fait toute votre littérature n'est pas là-dessus, sur l'écoute. Comment est-ce qu'on apprend à écouter les autres? À écouter, tout simplement. Est-ce que ça s'apprend au moins?
Je sais pas, alors peut-être que ça vient de ma première formation de psychologue, finalement. Je suis peut-être pas arrivée en psycho par hasard, j'avais peut-être envie d'écouter, et c'est une nouvelle forme d'écoute que j'ai trouvée peut-être par le biais de l'écriture. Mais j'aime raconter les histoires des gens, en fait. J'aime imaginer un homme, une femme, qu'est-ce qui peut leur arriver par rapport à leur histoire d'avant et vers quoi j'ai envie de les amener.
Et ça reste des personnages de papier, le contact avec les autres, ça vous manque pas ?
Alors j'ai la chance extraordinaire de rencontrer mes lecteurs en salon et en librairie. Et puis après j'ai de merveilleux amis, j'ai une famille. Voilà, je ne vis pas toute seule dans mon bureau avec mes personnages. Ça serait quand même assez schizophrénique.
Ce qui est marrant, c'est que vous le dites souvent. Hein, vous n'étiez pas une passionnée de littérature au départ. Vous n'aimiez pas beaucoup lire.
Non, non, j'ai mis très très longtemps à aimer lire.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu quelques, voilà, quelques livres dans mon enfance et mon adolescence. Il y a eu les Contes de Grimm en sixième qui m'ont marquée, voilà, forcément. Et puis après, au lycée, je pense que je devais déjà développer une âme de romantique, fanfan d'Alexandre Jardin. Et puis après, je suis arrivée en fac de psycho, où là, il a fallu que je lise beaucoup de livres de psychanalyse, enfin voilà, les Freud, les Lacan, etc. Enfin, j'en ai quand même absorbé un certain nombre d'ouvrages. Et puis il y a eu un moment, j'ai eu besoin de voir autre chose et finalement qu'on me raconte des histoires autres. Et je suis arrivée tranquillement dans le roman.
C'est par pure générosité, Agnès Martin-Dugan, que vous avez accepté de nous écrire un texte ce matin, un texte inédit,
oui,
très court,
oui,
sur vous. On vous écoute.
Oui. Alors. Cher Augustin et chers auditeurs, vous m'avez proposé de vous écrire ce texte sur un moment particulier de ma vie d'auteur. J'aurais pu vous reparler de mes débuts, de mes fantastiques voyages à la rencontre de mes lecteurs du bout du monde, ou encore de l'instant où chaque année, j'ai entre mes mains mon nouveau roman et que je le feuillette pour la première fois. Finalement, laissant vagabonder mon esprit, j'ai pensé à deux courriers reçus il y a peu. Ces deux moments ont été source d'une grande émotion, à la fois quelque chose d'assez irréel, mais surtout de bouleversant. Aux alentours du 20 mars, je reçois chez moi un courrier transmis par mon éditeur. Je l'ouvre curieuse, l'enveloppe est lourde. J'y découvre une première lettre. Elle a été écrite par une professeure de français d'un collège dans l'Eure. Elle m'explique qu'elle a décidé de faire lire à ses élèves de 3e mes romans « Les gens heureux lisent et boivent du café » et « La vie est facile, ne t'inquiète pas » pendant les vacances scolaires. Elle me joint à cette lettre les travaux que ses chers élèves ont produits. Les yeux embués, je découvre qu'ils ont écrit des lettres à Diane, le personnage des romans. Ils racontent, avec leurs mots de collégiens, la façon dont ils l'ont rencontré, ce qu'ils ont compris et ressenti face à son histoire. Puis ils ont imaginé des dialogues avec elle ou encore avec moi pour me poser des questions sur l'écriture du roman. Ces élèves de 14 ans ont lu, ont écrit, ont pensé, ont imaginé. Ils se sont investis dans un travail autour d'un livre. Surprise finale à ce courrier, je découvre des photos d'eux, souriant, en compagnie de leur professeur avec mes romans entre les mains. À peine remise de ce courrier, je découvre quelques semaines plus tard un message sur les réseaux sociaux. Ce message vient d'une professeure de français et d'histoire géo d'un lycée professionnel en Guadeloupe. Elle m'apprend que pour travailler le thème, parcours de personnage, elle a choisi d'étudier avec une de ses classes un de mes romans. Elle me dit, et je la cite, qu'ils ne sont pas très copains avec la lecture et encore moins avec des œuvres d'intégrale. Nom de Zeus, un texte de plus de 30 lignes, quelle horreur. Elle précise, ça, c'était avant. La magie a opéré. Ils ont lu. Pas de petits bouts, tout. Du début jusqu'à la fin. Attentivement, passionnément. Ils ont travaillé, sérieusement. Les champs lexicaux, l'utilisation de l'impératif, la structure des dialogues. Tout y est passé ou presque. Elle conclut en m'expliquant que la veille, ils ont fait le bilan de l'évolution du personnage. Elle leur a parlé de la suite sans en dévoiler grand-chose. Elle leur a montré le livre, puis l'a déposé en douce sur le bureau d'une de ses élèves, qui est repartie avec. Quel plus beau cadeau pourrais-je recevoir que celui-ci ? Avoir l'honneur de faire découvrir le bonheur de la lecture. J'aurais aimé vous lire les mots qu'ils m'ont adressés tant ils sont touchants, mais cela leur appartient. Je vais leur dire merci. Un très grand merci, tout comme à leurs professeurs, à tous ceux qui font en sorte que le livre ne soit pas un objet qui fait peur, à ceux qui montrent que la lecture ouvre un champ des possibles.
Merci infiniment, Agnès Martin-Lugan, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle qu'à la lumière du petit matin est publié aux éditions Michel Lafon. Je rappelle aussi à tous les auditeurs qui peuvent s'abonner au podcast de Boomerang. On le dit rarement, ça mange pas de pain, ça ne peut faire que du bien également. Sur le site de France Inter, qui est un site malin coquin. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
I keep it moving, I don't read gossip. J'ai déjà lu votre année, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous disiez des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur speed dial. Hello, téléphone on whoever keeper. Mon gars, j'ai pas 1000 pieds si t'as pas 1000 piastres. It ain't no G-Pass pour un cheap pass sur la métropolitaine. Un pied dans le tapis rapide, une main sur le bras de vitesse. Deux doigts pour la politesse.
Yes.
On roule à haute vitesse pour get le 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas c'est le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. J'vous ai servi LLA pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide. Witness the second coming de la sérotonin. Stunting, braque les caméras dessus. Tu croyais que j'allais jamais revenir, t'en es jamais revenu. De la banquette arrière du taxi jusqu'au siège avant du Boeing. Pas besoin de savoir se conduire, where I'm going. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Roule le papier, compte le papier, jamais les mêmes. We eat again, paid again, faded. What I call self-made, self-medicated. Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud. Beach chair, pichet, by the seashore, sure. Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances? Tout ce que j'ai fait, c'est faire des records, puis des faire des records. Oh my god. Est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques? Guess où Jean-Sébastien back avec ses bons vieux classiques? Avec ce genre de flow que mes flows paient les chapeaux. But I keep the game on lock, and that's childproof. I'm back on my bullshit, entouré de des axes chaque jour et de jour J. On s'apprête à rouler sur Paris, smell that new cheese. Ils pensent tout ce que je suis ricain quand je leur parle de où je vis. On va prendre notre équipage, réduit sur Air France. Aucun joker, un cœur, deux paires d'os. Ferme le hublot. La nostalgie au perdant. Mais on n'a pas de classe, mis à part la première classe. I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé. Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé.
Voyez comme il sonne, le français de Loud, 56K sur France Inter, et c'est l'heure de Sonia De Villers, qui m'écoute,
mais bien sûr,
qui nous écoute,
qui nous écoute,
et qui vous parle.
C'est presque la fin de la saison.
À demain. Ciao. Salut.